Monsieur le Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2. Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 3. Yel, mode ou avant-garde ? Avec Aline Laurent Maillard, Yanis et Toufi Kakem à la modération.
Bonsoir tout le monde et merci d'être venus nombreux malgré la pluie pour cette rencontre dans le cadre de la deuxième saison des procès du siècle du MUSEM. Et aujourd'hui, ce procès est consacré à un sujet très important, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes venus nombreux, et très contemporain, le genre, l'identité. Et la solution trans, pour reprendre le titre d'un ouvrage qui vient de sortir, un recueil de témoignages, parce que peut-être que la première chose à faire est d'écouter la parole, le vécu, les souffrances et les engagements des principaux, des principales concernés. Alors, l'année dernière, le Robert, le dictionnaire bien sûr, créait la polémique en décidant l'entrée du pronom « Yel » dans son service en ligne seulement. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on dit « Yel » ? Vous le savez, c'est la contraction de « il » et de « elle » et le pronom « yel » peut être utilisé pour désigner les personnes non-binaires, c'est-à-dire celles qui ne se reconnaissent pas exclusivement dans les genres féminins ou masculins. Alors ce soir, avec des témoignages de nos invités et des volontaires qui se sont inscrits à l'atelier de la commission d'enquête du dimanche, avec des pièces à conviction ramenées par nos invités et une pièce choisie de la collection du musée, on se demandera, et avec vous, public, si l'apparition de ce pronom Yel, de ce pronom neutre, témoigne d'une évolution durable de notre société sur la question du genre, ou si ce n'est que le symptôme d'un nouvel effet de mode. Ce procès du siècle appelle à la barre fluidité de genre, non-binarité, hétéronorme, assignation et autodétermination. J'appelle sur scène tout de suite nos deux invités, Aline Laurent Maillard. Aline Laurent Maillard, journaliste, auteur de livres sur la question, le dernier en date, Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus, c'est édité par Bûcher Chastel. Vous êtes aussi productrice du podcast Free from Desire, un podcast introspectif dans lequel vous livrez votre propre parcours de personne dite ace ou asexuelle et aromantique, depuis votre construction genrée identitaire enfantine à votre rôle de parent célibataire épanoui aujourd'hui. Et j'appelle Yanis Sahraoui, du nom de scène Slimy, puis Yanis, auteur, compositrice, interprète et bientôt comédienne. Bonsoir Aline Laurent Maillard, bonsoir Yanis. Peut-être pour commencer, on va clarifier nos propos, nos mots, mettre à jour notre lexique. Et je prie ceux qui sont au courant de tous ces mots de nous laisser juste cette parenthèse. Mais par souci de pédagogie, revenons sur les mots, les appellations, les pronoms. Yanis, vous vous présentez maintenant comme trans non-binaire. Aline Laurent Maillard comme femme non-binaire. Qu'est-ce que cela veut dire au juste, Aline ?
Je trouve que se définir, c'est quand même particulier parce qu'il y a à la fois ce qu'on aimerait dans une utopie et ce qui est la situation actuelle. Alors moi, j'utilise dans ce genre de contexte femme non-binaire pour préciser que moi, je me sens non-binaire. Je comprends vraiment pas le concept de genre. J'ai pas l'impression d'appartenir à un genre ou l'autre. Je comprends même pas ce que ça veut dire en soi. Quand on dit « je me sens femme », ça me semble complètement étranger. Mais j'utilise quand même « femme » dans des contextes comme ça de réflexion, parce que ma vérité, c'est que j'ai été socialisée, j'ai été éduquée comme une femme, j'ai vécu étant vue comme une femme, et toujours à l'heure actuelle, je suis vue comme une femme à qui on dit « oh, vous êtes la maman ?»« Oh, bonjour madame !» constamment, et tout ça, ça a un impact sur la façon dont je vois le monde et la façon dont j'interagis avec le monde. Et donc pour moi, c'est important de garder « femme » et non-binaire ensemble dans des milieux comme ça de réflexion. Après, dans la vie de tous les jours, je dis juste « je suis Aline » ou « je suis non-binaire », mais si on réfléchit, je préfère avoir les deux en même temps.
Yanis ?
Ben moi, je suis une femme trans et je porte pas énormément de. Pour moi, c'est compliqué de le définir en détail. C'est ce que je suis et c'est la personne que je suis au plus profond de moi. J'ai dû déconstruire beaucoup de choses pour arriver là où je suis aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose qui m'a été enseigné dans le sens où j'ai pas été éduquée dans une famille où j'ai forcément une ouverture sur ça. Je pense que si j'avais été justement amenée à me poser ces questions plus tôt via la non-binarité, ça m'aurait aidé. Mais aujourd'hui, voilà, je suis une femme trans, je suis en transition, donc aussi c'est un parcours aussi qui est particulier, qui m'appartient, mais c'est moi.
Vous dites pas non-binaire du coup ?
Ben, en fait, je suis passée par la non-binarité. Je pense qu'on est beaucoup, en tant que personne trans, à passer aussi par ça. Pour moi, la non-binarité, c'est quelque chose qui peut être aussi accessible à beaucoup de personnes. C'est pas forcément lié à une transition. Pour moi, la non-binarité, c'est accepter aussi que le genre est fluide, qu'on n'est pas forcément dans des rôles que préconçus, c'est-à-dire être une femme, c'est pas juste être rentré dans certaines cases, et être un homme, c'est pas juste rentrer dans certaines cases. Moi, j'ai toujours eu cette pensée, c'est juste que la société en soi m'a pas forcément aider à ça, parce que je veux dire, quand on est à l'école, quand on grandit, on est quand même mis dans des cases, moi, qui m'ont jamais servi, c'est-à-dire même à l'école, on me pointait toujours du doigt pour être entre guillemets différente, et on me mettait un peu à côté. Je comptais un peu pour du beurre, même quand on faisait des jeux filles garçons. Enfin, j'étais jamais dans un. On savait pas où me mettre. Donc c'est intéressant parce que même avant qu'il y ait tous ces questionnements qu'on a aujourd'hui, parce qu'avant on n'avait même pas ces mots-là, les gens faisaient déjà ce truc de ne pas savoir où me mettre. Donc en fait, je pense que les mots et aussi se définir, c'est important pour ça, parce que ça permet aussi de trouver une place. Enfin, moi, pour moi, ça me permet de trouver une place. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi se mettre des étiquettes, tout ça. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé, ça m'a permis d'avancer dans ma vie d'adulte et d'être là aujourd'hui, de prendre cette parole.
Ouais, moi j'adore les étiquettes. Pas parce J'adore. Que j'en ai plein, j'en collectionne, hein, je suis asexuelle, aromantique, non-binaire, queer, pas parce que j'adore être limitée dans une boîte, mais parce que je trouve que ça permet d'une part d'expliquer facilement qui on est. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé depuis que j'ai réalisé que j'étais non-binaire, j'ai juste l'impression d'avoir un terme maintenant que je peux donner aux gens, et tout de suite les gens comprennent un peu mieux où je me situe.
Et c'est arrivé quand, ce terme ?
C'est arrivé, le terme historiquement ?
Chez vous, c'est-à-dire à quel moment vous théorisez votre genre ?
Franchement, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense il y a un an et demi, deux ans peut-être. Et depuis que j'avais la première fois que j'ai entendu le non-binaire, je me suis dit oh, mais c'est génial, ça me parle vachement. Si j'avais été adolescente, si j'avais eu ce terme adolescente, j'aurais été non-binaire. Et j'ai mis du temps à comprendre que bah, j'étais toujours la même personne et qu'on pouvait être non-binaire en étant adulte. Et voilà, il y a juste un moment, une pote m'a regardée et m'a dit mais. Enfin, tu crois pas que t'es non-binaire ? Et j'étais genre, ah oui, si, effectivement, j'imagine, c'est pas parce que je suis à l'aise avec mon prénom, avec mon pronom, avec mon apparence physique. Enfin, ça a été un chemin. Moi, je suis passée par une assignation plutôt féminine, opération d'augmentation mammaire, parce que justement, je me cherchais, je me disais comment je fais pour être vraiment femme, pour être vraiment femme. Mais bon, arrivée à la trentaine, j'avais enfin à peu près trouvé ma place. Et c'est du coup à ce moment-là que j'ai découvert ce terme. Et donc, j'ai pas l'impression d'avoir transitionné parce que j'avais déjà fait une longue transition avant d'avoir ce terme, une exploration, une recherche de soi. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le terme non-binaire, c'est qu'il arrive et qui touche plein de personnes qui ont eu une construction de genre différente en fait selon leurs âges, selon l'époque à laquelle ils sont nés, ils ont grandi. Grandir dans les années 2000 avec l'hyperféminisation, les tops moulants, les mini-jupes, les strings et tout ça, c'est autre chose que grandir aujourd'hui par exemple. Donc c'est pas le même rapport à son genre et à la non-binarité.
Ni elle, ni il, mais yel. Alors Yanis, vous m'avez dit que c'est un terme que vous employez faute de mieux. Vous êtes construit avant que le mot YEL existe.
On n'a pas eu le choix que de le créer. Enfin, la communauté queer n'a pas eu le choix que de le créer dans le sens où je pense que la langue française aussi, c'est qu'elle est très genrée, et quand on est en transition, qu'on soit non-binaire ou même une femme trans comme je suis, c'est une langue qui est complexe, dans le sens où on est toujours rappelé à un genre, et c'est mouvant selon les périodes. Enfin, et je pense que le pronom « elle », il a été créé parce qu'on n'a pas... il y a beaucoup de débats, c'est-à-dire même les politiques s'en emparent, dans le sens où ça crée des polémiques. En vrai, quand le they them a été créé, enfin qu'il a été employé pour ça en Angleterre, ça n'a pas créé les mêmes polémiques. Il y a plein de langues aussi qui n'ont pas de pronom. Faut pas oublier qu'on sort rarement de notre pensée en pensant que tout le monde fonctionne comme ça, mais il y a des langues où les gens ne sont pas genrés. Enfin,
et on va en parler, oui.
Oui, c'est important parce que c'est, on oublie qu'il y a plein de manières de communiquer différentes selon les pays.
Et vous n'aimez pas ce mot quand vous dites faute de mieux, je veux bien l'employer.
Si, mais je le trouve bien. Après, je trouve que malheureusement, c'est dommage qu'on soit dans un combat et que ça soit presque utilisé de manière politique pour dire que c'est une propagande, qu'on est en train de détruire la structure de la société en faisant de la place pour certaines personnes. Enfin, c'est quand même assez difficile de se ramasser ça en tant que personne trans, parce que en fait on essaie juste enfin d'avoir une place. On nous a déjà mis des bagages sur le dos pendant des années. On sait quel est le bagage du mot trans. Enfin, c'est très récent qu'on l'a déconstruit et qu'on a enfin de la visibilité. Mais en vrai, la visibilité trans, elle est très récente. Donc le problème, c'est que une fois qu'on arrive à enfin faire passer des messages et à inclure des personnes, on nous dit qu'on est en train de faire de la propagande, on nous dit qu'on est en train de complètement détruire l'esprit des jeunes en rentrer dans l'éducation et leur permettre d'avoir accès à ça. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que le problème, c'est que tout est encore un combat et qu'on ne nous laisse pas l'espace pour être tranquille.
Je ne sais pas si j'ai bien compris Yanis, mais il dit ce mot, je me l'approprie ne serait-ce que pour être contre les détracteurs de Yale. Et vous en êtes où vis-à-vis de ce mot?
Bah ouais, moi j'aime bien justement qu'il soit politique. À la limite, si les anti s'en sont emparés, bah tant mieux, c'est qu'on les fait, on leur fait peur en fait. Et moi je trouve ça plutôt cool. Après, personnellement,
plutôt cool de leur faire peur.
Bah oui, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose. Là, on touche au problème réellement, à la structure même. Et c'est ça qui fait peur aux personnes qui critiquent, qui nous disent qu'on fait de la propagande et tout. On est juste en train de montrer que le système qu'on nous a vendu jusqu'à présent, il est pas naturel et qu'il y a d'autres options. Et ça fait vachement peur aux personnes qui veulent pas voir le système bouger. Et donc moi, je trouve que c'est bien. Enfin, ce qu'on veut, c'est que les choses bougent. Et donc en faisant ça, on voit que ça bouge. Et après, moi, si je l'utilise pas personnellement, d'une part, c'est parce que je suis bien avec mon pronom. En fait, c'est pas mon pronom qui me pose problème dans la société. C'est ni mon prénom, c'est juste la façon dont la structure dans la société est structurée et la façon dont les gens me regardent. Mais au-delà de ça, je pense pas que je l'utiliserai. Alors, j'utilise they en anglais, qui est l'équivalent, mais parce que they me plaît plus, parce que il est pas genré. Et dans Yel, c'est il et elle. Et donc, ça continue un peu à véhiculer cette idée que non-binaire, ça serait une sorte de mix du il et du elle. Et pour moi, la non-binarité, c'est être au-dessus. Dans mon expression propre, hein, c'est la non-binarité, c'est très, très large. Et autant de gens non-binaires qu'il y a de rapports au genre. Alors, il y a des gens qui se disent agenre, donc hors du genre, d'autres qui se disent gender fluid, parce que selon les jours, ils vont se sentir plutôt femme, plutôt homme, selon les heures, selon les circonstances. Moi, du coup, je trouve que YEL, ça me va pas, parce que j'ai pas envie de me raccrocher à ces deux conceptions du IL et du ELLE.
Alors, il y a quelque chose qui me rend un peu perplexe dans votre démarche. Vous dites que si jamais quelqu'un me considère comme une femme, c'est pas important. Mais en revanche, quand on me donne du madame, je trouve ça très grave, insultant. Pourquoi ?
Alors, je dirais pas insultant. Si c'était quelqu'un qui sait que je suis non-binaire et qui sait que la façon dont j'aimerais qu'on s'adresse à moi, c'est en utilisant le pronom elle, mais en évitant les termes trop genrés comme maman, mère, madame, si cette personne le faisait, c'est-à-dire refuser la façon dont je m'identifie, dont je me sens, ça serait problématique parce que c'est vraiment un refus. dans la vie de tous les jours, j'ai conscience que même si je suis habillée entièrement avec des vêtements d'homme, avec un bonnet et avec un masque Covid, on va toujours dire que je suis madame. Ce qui est assez ironique puisqu'on m'a harcelée toute ma jeunesse parce que j'étais pas suffisamment féminine. Parce que voilà, ma corpulence, la façon dont je me déplace fait que je renvoie quelque chose de féminin. Donc je vais pas demander aux gens de savoir de but en blanc que je suis non-binaire. Ce serait juste ridicule. En revanche... Et puis, il faut aussi le temps de se changer la façon dont on pense. Par exemple, moi, à la crèche, le personnel fait attention à m'appeler le parent de Joe ou de m'appeler par mon prénom. C'est le cas 90% des fois. Les 10% des fois où elles disent la maman de Joe parce que c'est l'habitude, en fait. Je vais pas leur en vouloir. Elles font déjà tellement, en fait. Après, dans un monde idéal... on pourrait vivre dans une société où on ne dit pas madame et monsieur tout le temps. On pourrait très bien ne plus dire madame Aline Maillard, madame Maillard, on vous attend, le médecin vous attend. En fait, dans une salle d'attente, on pourrait très bien dire Aline Maillard, on vous attend dans une salle d'attente. De même que dans la rue, plutôt que de dire en servant quelqu'un, et voilà pour madame, on pourrait très bien dire et voilà pour vous. Enfin, il y a plein de situations en fait dans lesquelles on peut se passer du madame, du monsieur. Donc voilà, dans un monde idéal, je pense que personne ne ferait ça, mais c'est pas
Yanis, vous êtes d'accord avec Aline?
Je sais que ça frustre vachement, ça crée des tensions chez plein de personnes d'évoquer ça, mais en vrai, c'est des mécanismes qui s'apprennent et au final, ça devient assez ça devient au bout d'un moment des choses qui sont que moi je fais au quotidien, par exemple. Je m'adresse jamais en foutant madame, monsieur tout le temps à toutes les sauces, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas facile, même pour moi, c'est pas.
Ouais,
facile.
Pareil. Parfois, je dis madame, monsieur dans la rue, je suis là, genre,
et j'en
moi,
veux
je
pas,
le fais.
Et j'en veux pas aux personnes qui, d'ailleurs, parfois font des erreurs. Moi, ça m'est arrivé qu'on me mégenre, par exemple, et j'ai déjà repris des personnes qui se sont rectifiées, mais j'ai déjà repris des personnes qui ont commencé à rentrer dans des débats ou à essayer de me convaincre que c'était pas ça. Donc c'est ça qui est énervant. Je suis genre là, en fait, on est donné dire ce qui se passe en soi, c'est pas forcément ouvrir
une porte. Vous avez l'impression de vous justifier à chaque fois que c'est, ou de moins en
moins? Tout le temps, de moins en moins, parce qu'aujourd'hui j'ai ce qu'on appelle un passing entre guillemets qui est beaucoup plus facile entre guillemets, mais au début de ma transition j'ai dû évidemment me justifier. Mais c'est intéressant parce que ça montre que ça passe beaucoup par le physique, malheureusement. On est vachement sur les apparences parce que ça passe par le physique, ça passe par la voix, on est dans des clichés en fait. Enfin, il y a des femmes qui ont des voix graves, des femmes cis, il y a des hommes qui ont des voix plus aiguës. Et on est vachement sur quelque chose qui est dans les apparences parce que moi je vois aujourd'hui, on me met genre pratiquement jamais. On me dit tout le temps madame, donc ça me fait rire parce que... C'est quelque chose que j'accepte, mais en même temps, ça me fait rire parce que c'est en quelques mois comme ça switch, en fait. C'est une expérience de vie assez intéressante. Et il y a quelques mois, on ne savait pas trop. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que de demander aux gens aussi.
C'est le moment maintenant d'appeler à la barre les premiers témoins de notre procès. La parole est à vous.
Bonsoir. Les prises de parole des témoins que vous allez entendre ce soir sont issues d'un travail collectif en atelier qui s'est tenu hier, la commission d'enquête. Une douzaine de personnes se sont retrouvées pour ouvrir ensemble le sujet, préparer des témoignages et des arguments qui donnent à entendre des points de vue multiples au croisement de l'expérience vécue, de la réflexion et de la fiction.
Bonsoir. J'ai participé hier à la commission d'enquête et ce soir, je serai devant vous Carmina Santos, venue d'Espagne, pour témoigner durant ce procès. Bonsoir, je suis ravie de célébrer ici l'inclusion du YEL dans la langue française et tous les changements sociétaux que cela engendre. Tout d'abord, j'aimerais dire que la question du langage m'a toujours fascinée. Petite, je me questionnais déjà sur le genre des mots. Pourquoi dit-on par exemple un succès mais une catastrophe ? Parce que ma vie à moi, je peux vous le dire, au début, c'était la catastrophe. Je suis née peu après le franquisme au sein d'une famille nombreuse, dans le sud de l'Espagne, famille très traditionnelle et très conservatrice. Très vite, Je me suis sentie enfermée dans mon corps comme dans une prison. Être femme dans ma famille supposait d'obéir à mon père et à mes frères, même les plus jeunes, de seconder ma mère dans les tâches domestiques et ménagères, d'épouser un homme qui me serait plus ou moins imposé, de me cantonner à un métier en conformité à ma condition de femme. Et bien sûr, d'être soumise au devoir conjugal, comme on dit, sans que mon désir ne soit jamais pris en compte. Je vivais dans ce corps de femme, dans ce corps de femme subi, sous l'injonction permanente de devoir être serviable et de me considérer inférieure aux hommes. Vous l'avez compris, je vivais un réel mal-être identitaire. À ce moment-là, j'aurais tout fait pour échapper à ma condition féminine. Mais l'idée de transition, vous l'imaginez bien, ne faisait absolument pas partie des possibles à cette époque. Alors, cette nécessité de me libérer de l'oppression masculine s'est traduite tout à fait différemment pour moi, plus tard, dans un engagement associatif et militant. Et ce sont dans ces accompagnements que j'ai pris enfin conscience de mon identité non-binaire. J'en profite pour saluer ici l'engagement des artistes. Eux aussi œuvrent et continuent d'aider aujourd'hui à la transformation des mentalités et de la société. Par exemple, pour nous, en Espagne, le mouvement artistique de la Movida dans les années 80 a incarné ce combat avec Pedro Almodovar comme représentant le plus emblématique. Puis, plus tard, je me suis engagée en politique pour défendre le féminisme et la prise en compte de la diversité des identités et des réalités humaines. Vous comprendrez donc que la naissance du pronom « iel » constitue pour moi une étape très importante de ce combat. Je vous remercie de votre attention.
Maintenant, allons voir ce qui se passe ailleurs avec votre pièce à conviction, Aline Laurent-Maillard, et cet extrait de votre livre, Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus, aux éditions Buchet-Chastel. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors, c'est déjà une super illustration de Émilie Sarnel qui avait fait les illustrations de notre guide. Dans notre livre, en fait, pour bien faire comprendre que le genre est une construction sociale, moi, j'essaye toujours de m'atteler à montrer que c'est pas pareil partout et c'est pas pareil tout le temps. Et ce qui prouve bien que c'est pas aussi naturel que ce qu'on essaye de nous dire. Et donc, avant la colonisation et avant que les Européens arrivent à inonder le monde entier avec leur idée selon laquelle il n'y aurait que deux genres, deux sexes, comme ils disaient à l'époque, on avait plein d'endroits en fait, où il y avait 2, 3, 4, 5 genres. Et non seulement il y avait plusieurs genres, comme on peut le voir sur cette carte, et il y en a certaines communautés qui existent, toutes ces communautés existent toujours, hein, il y a toujours des mouches, il y a toujours des hijas, des two spirits. C'était des personnes qui étaient généralement valorisées. Qu'on leur donnait, alors il y avait encore un peu de fantasmes et de fétichisation bien sûr, mais c'était des personnes qui avaient un rôle spécifique dans la société, qui étaient vues comme étant un lieu entre les divinités et les êtres humains, donc c'était pas du tout vu comme quelque chose de négatif, même si c'était vu comme quelque chose de particulier. Et ça, je trouve ça important de le rappeler, en fait, la façon dont on pense le genre n'est pas la seule façon de penser le genre.
Yanis,
je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi de se plonger dans l'histoire et dans la culture du monde. Même la culture queer est hyper vaste. On s'arrête vachement à ce qu'on connaît aujourd'hui en pensant que c'est quelque chose de moderne qui se passe aujourd'hui. Mais je pense qu'on est à un moment où on a besoin d'archiver et de savoir aussi de connaître d'autres communautés, d'autres civilisations, notre histoire aussi queer qui est hyper vaste parce qu'il y a des personnes trans, non-binaires dans l'histoire depuis longtemps, enfin, que c'est un cheminement qui n'est pas que moderne et qu'on en parle beaucoup.
Pas forcément occidental, comme on dit, c'est ça.
On en parle beaucoup aujourd'hui via la pop culture, via les médias et via parfois du sensationnalisme aussi via les réseaux sociaux. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est juste via la pop culture, via les apparences, via l'esthétique, qui c'est quelque chose de plus profond et de ouais qui mérite d'être.
Mais je voulais faire un petit bémol sur la transidentité, c'est que effectivement quand on regarde nos ancêtres queer, que ce soit du 20e ou 19e siècle ou même du Moyen Âge, de l'histoire. César et tous les autres qui de l'Antiquité, c'est toujours très délicat de vouloir dire « Ah voilà, il y avait des personnes trans, il y avait des personnes gays, il y avait des personnes bi », parce qu'à l'époque, c'était même pas comme ça en fait que leur cerveau fonctionnait. Et avec les mots, on change la façon dont on pense. Et à l'époque, il n'y avait pas cette idée de genre, il n'y avait pas cette idée même de juste deux sexes complémentaires. Et donc pour eux, leur expression de genre n'était pas du tout la même. Et donc souvent, on se retrouve, quand on veut un peu regarder l'histoire, à se dire, est-ce que cette personne était trans? Est-ce que cette personne était butch, par exemple, dans le cas d'une femme? Est-ce que c'était une personne qui était gay? Enfin, on mélange un peu tout et en fait, on n'a pas de preuves et on n'aura jamais d'explication de comment les gens se ressentaient, parce qu'ils n'avaient pas ces outils. C'était pas comme ça, à travers cette idée de transidentité. C'était beaucoup plus fluide, en fait. C'était pas une obsession comme ça l'est à l'heure actuelle.
Et pour vous, donc, pour vous, la mère de toutes les batailles, c'est de dégenrer la société.
Ouais, c'est juste d'enlever le genre. On sait la façon dont le genre se crée. Pourquoi est-ce que, quand on étudie des enfants, en fait, on arrive rapidement à comprendre pourquoi est-ce que les enfants sont tellement obsédés par le genre et qu'ils sortent des trucs complètement lunaires, genre non, les cacahuètes, c'est pour les garçons, les chaussettes, c'est pour les filles. Enfin, n'importe qui connaît des enfants les a entendus dire des trucs comme ça. Alors, parfois, qui sont ancrés dans la réalité et parfois, juste, ils inventent complètement des catégories comme ça. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'adultes et en tant que société, on passe notre temps à diviser la société en deux groupes. Ben, les enfants voient ça, en fait. Les enfants voient ça et essayent de s'expliquer ça, essayent de comprendre et intègrent très vite que tout est divisé en deux catégories et en deux catégories qui sont imperméables. On ne peut pas passer de l'un à l'autre, elles sont complémentaires et surtout, il y en a une, et ça encore, on a les études scientifiques le prouvent, les enfants comprennent très très tôt que les filles sont inférieures aux garçons et que les garçons sont supérieurs aux filles. Alors, si on arrêtait de s'intéresser autant au genre, non seulement les enfants intégreraient beaucoup moins ces catégories de genre et s'y intéresseraient beaucoup moins et verraient la différence fille-garçon comme on peut voir la différence blond-brun, petit-grand, gros-maigre, riche-pauvre. Enfin,
et pourquoi tout dégenrer, c'est mieux que d'accepter tous les genres?
Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça nous évite de nous questionner. Si on enlève le genre, ben on est sûr de ne pas faire de gaffe. On n'a plus besoin de se poser des questions de comment est-ce que j'interagis avec telle personne, quand est-ce que je lui demande. Et d'ailleurs, si on prend le problème numéro 1, c'est l'état civil. Si on enlevait à l'état civil le sexe, qui ne sert strictement plus à rien, normalement, hommes et femmes ont le droit à faire les mêmes choses. On a le droit de se marier entre nous, d'avoir des enfants, quels que soient nos sexes dans un couple. Donc vraiment, cette mention n'a plus aucune raison d'être. Si on l'enlève, bah on se simplifie énormément la vie quand même. Hein. Ça veut dire que
toutes les transitions... Et c'est déjà le cas dans certains pays en plus.
À l'état civil, ouais, c'est en cours, je ne sais pas où ils en sont.
Sur les pièces d'identité, il n'y a plus.
Mais parce qu'on est en Europe... Tous les pays qui ont supprimé la mention de sexe ou la mention de genre, selon la façon dont ils définissent ça, de leur carte d'identité, ne peuvent pas l'enlever de l'état civil parce que c'est nécessaire sur le passeport européen. Donc dans tout l'état, ouais. Mais par exemple, il y a des pays qui font qu'on n'est pas obligé de l'indiquer. Au Canada, par exemple, on peut, je ne sais plus si c'est un X ou si c'est un non appliqué, mais ça reste. On pourrait juste dire vous n'avez, il n'y a pas de case à remplir. Ça ne changerait strictement rien. Ça voudrait dire que quand je vais à l'école, à la crèche de mon enfant, j'ai pas besoin de. Il n'y a pas un genre auquel mon enfant n'a pas choisi, qui s'afficherait partout.
Problème,
et donc pas de vestiaire pour les femmes et pour les hommes, tout ça,
non.
Ça disparaît.
Ouais. Moi, j'étais à Berlin il y a genre une semaine et j'étais dans un spa et c'était des vestiaires qui communiquaient, donc qui étaient ouverts. Donc en fait, on peut aller dans les deux sans problème. C'est pas du tout. Et c'est des vestiaires non-genrés, ça se passe très bien. En Suède, tous les toilettes sont non-genrées, il n'y a pas de... C'est comme ça de partout, c'est-à-dire c'est... Mais c'est marrant parce que les touristes, souvent, sont un peu surpris, ils sont un peu peur.
Ouais.
Mais je ne sais pas, c'est...
Ouais. Mais surtout, il y a plein de bénéfices.
Tout peut bien se passer.
Si tu prends les toilettes, bon, alors d'une part, il n'y aurait plus de queue, enfin, plus d'attente, puisque les toilettes ont été faites en pensant aux besoins masculins. on a divisé en disant il faut le même espace. Bah non, en fait, parce qu'il y a des personnes qui menstruent et qui vont massivement dans les toilettes des femmes, parce que ce sont encore majoritairement les femmes qui vont dans, qui s'occupent des enfants et qui du coup vont plus souvent dans les toilettes. Donc en supprimant ça, déjà d'un, on aurait moins de problèmes de personnes qui font la queue et qui attendent et d'autres qui n'attendent pas. Mais en plus de ça, on va aussi régler le problème de harcèlement dans les écoles. Tous les tests ont montré que quand on avait des toilettes genrées, il y avait moins de harcèlement et moins de violence. Alors c'est, généralement, c'est harcèlement chez les filles et violence chez les garçons. Et que il y avait aussi la propreté. Mais c'est un truc, genre tout d'un coup, toutes les toilettes sont propres, quoi. Donc... En se mélangeant, on a tout à gagner on a tout à gagner.
Alors pour reprendre l'intitulé du débat, est-ce que le YEL c'est un phénomène de mode ou plutôt on est dans l'avant-garde ? Je voudrais que vous commentiez cette photo, Timothée Chalamet, au festival de Venise, à la dernière Mostra de Venise, et le rappeur Ichon. Eh ben voilà, merci Yanis. Vous le connaissez, il est pris en photo par le magazine Antidote, un magazine de mode très à l'avant-garde des combats justement pour le genre, pour l'acceptation de tous les genres. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces photos ? Vous vous dites, c'est bien, cela veut dire que des grandes stars actent le fait que c'est le débat du moment, ou vous pouvez dire que c'est peut-être de la récupération ?
Bah, moi, pour moi, ça passe pas que par l'esthétique et par le. Après, je peux comprendre dans le sens où tout le monde a parlé, par exemple, de la tenue de Timothée Chalamet, parce qu'il a.
Fallait oser, non ?
Le donu. Oui, mais bon, c'est pas non plus. Pour moi, il y a des personnes qui ont fait bien plus de choses et qui font bien plus de choses. Après, évidemment, ça permet à des gens peut-être de se projeter, de se dire qu'ils peuvent porter certaines choses, mais faut aussi se détacher de l'esthétique et du vêtement. C'est quelque chose qui moi aussi m'a permis d'avancer, de construire, mais dans ça c'est un tapis rouge, enfin bref, voilà, il s'amuse, tant mieux pour lui, hein, mais il est pas en train de combattre pour moi. C'est pas lui qui m'aide à avancer dans ma transition, je peux vous assurer.
Ni l'autre.
Ichon, je l'aime bien aussi, mais il m'aide pas à avancer dans ma transition. Mais ils sont mignons, ils sont cute. J'aimerais bien leur parler, les rencontrer, ils sont cute, mais c'est...
Aline, j'ai lu vos articles, vous étiez plutôt très gentille et vous avez accueilli cette prestation de Timothée Chalamet avec, disons, beaucoup de plaisir, en disant que ça peut faire avancer les choses, quoi.
Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question puisque c'est littéralement le sujet de mon dernier livre, Libérer de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau. Donc c'est genre, c'est un essai où je discute pas que de Timothée Chalamet, mais de la façon dont les stars masculines évoluent et pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'est mis à adorer ces petites créatures toutes minces qui effectivement expriment une féminité. Bien sûr, la situation est compliquée et c'est très clairement pas eux qui vont changer la situation et c'est des hommes en pouvoir qui craignent rien à changer leur tenue vestimentaire.
Mais ce sont des modèles quand même.
Mais pour autant,
il y en a toujours eu. Enfin, il y a eu Prince, il y a eu Bowie. Enfin,
là, on parle du grand.
C'est les célébrités de maintenant quand même.
Ah oui, mais moi, ils n'inventent rien pour moi. I'm sorry, mais
non, mais moi, j'ai eu plein de témoignages de jeunes et de moins jeunes. non, mais je suis d'accord avec toi, ils n'inventent rien. Je veux dire, Prince est passé devant. Moi, je trouve que Timothée Chalamet a un nouveau rapport à la mode quand même, dans le sens où il ne pique pas des éléments à la garde-robe féminine, mais essaye de voir à quoi pourrait ressembler une garde-robe masculine qui serait libérée un petit peu plus des règles, parce que cette tenue, ce n'est pas une tenue de femme non plus. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui est dans l'exploration vestimentaire. Ils ne s'habillent pas de façon comme ça dans la rue. Ils n'ont pas de grands discours non plus sur le genre dans les médias. Pour autant... C'est surtout que les médias en parlent. Et quand c'est des personnes queer, tristement, personne n'en parle. Mais quand c'est un type
de
Chalamet...
Voilà, c'est ça le problème.
Ouais, mais du coup...
C'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, moi. Et pour moi, c'est des coups médiatiques, c'est des moments, c'est des tapis rouges, c'est une photo pour une campagne, pour un sac. C'est... Moi, j'ai envie que les gens racontent leur parcours, qu'on les entende. Si une personne trans le faisait, ça créerait pas la même chose.
C'est un... Les gens s'en ficheraient.
Bon, alors comme je devinais à peu près vos réactions, je me suis dit, je vais chercher autre chose. Et là,
c'est différent.
La transition, on peut parler de transition cette fois-ci.
Voilà, c'est une transition, oui.
Oui.
C'est une personne trans. Mais c'est une personne trans qui a pris la parole sur sa transition, Donc Elliot Page, mais en vrai c'est vraiment différent parce que c'est un parcours et c'est là c'est un engagement aussi qui est haut, qui est, après Elliot Page il a pris la parole aussi à via des associations. Enfin c'est vraiment pour moi c'est différent.
Et c'est une personne qui prend des risques en transitionnant pour sa carrière. Alors il se trouve que c'est à peu près la première fois qu'il y a une transition qui est pas trop défavorable à la personne, parce qu'encore une fois on est en 2022 et plus en 2018, et que Elliot Page était déjà dans une série qui était très importante et Netflix pouvait pas dire bon bah on enlève le personnage parce qu'il a transitionné, ou pouvait pas dire bah on garde le personnage mais on le fait pas transitionner. Donc il y a eu cette chance incroyable pour Elliot Page dans une situation où il pouvait se permettre de faire sa transition, et puis le Covid aussi qui a permis d'expérimenter chez soi. Pour plein de personnes trans.
Sauf que Netflix a dit que la plateforme a dit qu'elle était fière de pouvoir avoir Elliot Page. Il a eu la une de pratiquement tous les journaux. Il est célèbre. Là aussi, on peut parler aussi de signe des temps.
Oui, oui et non. Enfin, déjà, oui, bien sûr, ces personnes sont célébrées. De même que Billy Porter, quand il a porté une robe tuxedo, il a aussi été célébré. Mais c'est des personnes qui vivent ça dans la vie de tous les jours, qui ont du coup une expression de genre ou une identité de genre hors norme dans la vie de tous les jours et qui prennent cher dans la vie de tous les jours. Elliot Page, déjà dans la vie de tous les jours, mais dans sa vie professionnelle, il se fait insulter tout le temps. C'est une évidence. Déjà, je vois, nous, dans notre micro-célébrité, comment on se fait harceler et embêter. Elliot Page, ça doit être catastrophique. C'est une prise de risque tout le temps.
Donc, ouais, non, mais j'entends ça, mais vous qui suivez les séries américaines, vous dites qu'il y a eu quand même un progrès concernant la visibilité des personnes transgenres, que maintenant, ça se fait avec les gens concernés, et que ça, c'est nouveau.
Ça, c'est nouveau. Mais en fait, ces groupes-là réfléchissent en termes de qu'est-ce qui leur apporte de l'argent. Et donc, ils ont vu que les jeunes étaient de plus en plus LGBTQ+, ou en tout cas clairement massivement des alliés. Et donc maintenant, dans toutes les séries pour ados, il y a des personnages queer, ou presque.
Un effet de mode, c'est pas un feu de paille.
C'est pas un feu de paille, c'est juste la parole qui se libère.
Je pense qu'on est là et qu'on s'excuse plus d'être là, donc ils ont pas trop le choix. Et c'est surtout qu'on a une place dans la société qui est plus importante.
Est-ce que pour vous, Yanis, c'est présent dans votre travail? Vous vous dites, en plus de la musique, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'écrire des chansons, je vais jouer dans des films, mais en plus, je dois représenter une cause. Est-ce que vous le faites d'une manière plutôt volontariste, ou est-ce que faites parce qu'il faut le faire?
C'est pas que j'ai pas le choix, mais c'est des prises de parole qui sont... Enfin, moi, je parle de ma vie, de mon vécu, donc... Dans un sens, je suis politique et je représente une cause, mais un peu parfois malgré moi, dans le sens où moi, je me rends compte que quand je parle de mon parcours et de ma vie, c'est forcément quelque chose de politique. Ouais. Mais c'est ma vie, enfin, c'est comme n'importe quelle personne qui est
c'est
là va parler de son parcours.
C'est pas pesant des fois d'être porte-parole d'une cause
Moi, ça me fatigue pas parce que je pense que c'est important. J'aime parler aux gens et je pense que la chose que j'aime le plus, c'est faire des chansons. Donc c'est être sur scène, c'est toucher des personnes. Et pour moi, la musique, c'est quand même assez incroyable pour ça. C'est que ça peut toucher des publics très différents. Il y a des gens qui viennent me voir qui sont complètement hors sol de tout ce qui se dit ici, de la communauté queer, LGBT, mais qui sont touchés par une chanson. Moi, je pense qu'on peut toucher les gens de plein de manières, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit aussi dans l'écoute et qu'on soit dans... qu'on laisse la place aux gens pour raconter leur histoire. Pour moi, la culture et les films, les séries, il faut qu'on laisse les gens raconter leur histoire. Moi, les
et
personnages
aussi,
m'ont aidé.
L'art, et justement, je vous demande, aussi. Cette fois-ci, je vous présente une pièce à conviction. C'est une pièce du musée, et j'appelle à la barre la conservatrice Marie-Charlotte Calafat. Merci d'être venue, et qui va nous dévoiler une pièce, d'ailleurs une pièce assez rare, de la collection du MUCEM. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, c'est une coiffe provient de Macédoine, dans une région qu'on appelle la Roumloukhi. Et il y a plein de villages, une cinquantaine de villages dans cette zone du Roumloukhi, dont un qui s'appelle Jida. et qui est particulièrement connue pour son costume traditionnel de mariée. Donc, il s'agit d'un katsugi, c'est son nom, et c'est une collecte faite par des ethnologues vers 1956 en Macédoine, en Grèce. Et ce qui se passe, c'est que va être étudiée notamment cette coiffure qui est donc un élément clé du costume de mariée féminin pour ce qu'il raconte d'une légende qui invoquerait les temps d'Alexandre le Grand quand celui-ci aurait trouvé les hommes très lâches sur un chantier, les femmes, elles, géraient et notamment amenaient les vivres, et à la fin de la bataille, il a enlevé les casques des hommes pour les mettre donc sur la tête des femmes. Et en effet, quand on la regarde un peu de près, c'est de la cotonnade noire. Après, il y a beaucoup de fanfreluches, des fleurs, toute une partie dorée. Mais ce qu'elle représente est particulièrement intéressant quand on est sur l'histoire du costume traditionnel et en particulier lors de rites de passage, parce qu'il y a plein de codes de lecture sur l'apparence, sur le costume. Et là, on est sur un code de renversement, ce qui est véritablement rare dans le costume traditionnel et encore plus donc dans le moment du mariage, où on peut être peut-être un peu normé aujourd'hui avec l'idée que la robe de mariée est une robe blanche. C'est quelque chose qui est arrivé très tardivement, en fait, au XIXe siècle, et la collection du Mucem traduit une diversité incroyable de costumes de mariée. Mais ce qui est particulièrement intéressant sur cette coiffe, c'est qu'elle est vraiment unique dans ce déplacement du genre d'un élément masculin venant sur un élément féminin, parce que majoritairement, ce qui va rester sur ces costumes traditionnels des femmes en Europe et en Méditerranée, c'est que les femmes vont être porteuses d'énormément de pièces de textiles, qui fait qu'on va montrer une forme de richesse, l'envie d'un épanouissement à un moment de sa vie, mais absolument pas ce qui est cette... Et je propose de revenir sur l'image de la costume de mariée Gida, parce qu'au-delà de cette coiffe, c'est une ceinture métallique, on dirait quasiment donc une armure, une redingote. Il y a également tout le reste du costume qui traduit cette même histoire. Et donc, les ethnologues du Mucem se sont attachés à étudier ce costume, y compris, je citais son origine géographique qui est intéressante, parce que la Grèce a bien évidemment retravaillé ses origines antiques, et on est là sur une pièce qui fait penser à toute une iconographie, et notamment à Athéna, qui est donc une figure féminine déesse de la sagesse, mais aussi de la guerre. Et en fait, à travers le costume traditionnel, c'est aussi tout un patrimoine qu'on va revendiquer, toute une origine. Et donc, les ethnologues vont dire, quand on regarde le costume traditionnel, les apparences, tout ça, on va questionner plusieurs théories. Il y en a cinq. Il y a la pudeur, la protection, la magie, l'esthétique et la sexualité. Et à ce titre, Claude Lévi-Strauss, qui est une des grandes figures de l'ethnologie, dira « on épouse que à travers sa coiffe ». Donc je trouvais intéressant pour aussi cette proposition aujourd'hui d'évoquer les cas qui ne vont pas dans le sens complètement du propos, dans le sens où il y a bien des costumes féminins, des costumes masculins, mais même dans les costumes traditionnels, les choses vont se brouiller. Et donc, pour cela, je trouvais intéressant de proposer cet objet.
Merci beaucoup, Marie-Charlotte Calafa. Merci beaucoup, Aline Laurent-Maillard. Merci beaucoup, Yanis.
Cette séance a été enregistrée le 28 novembre 2022, avec la participation d'Aline Laurent-Maillard, Yanis, Marie-Charlotte Calafa, et de Toufik Hakem à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUCEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.